Vous écoutez RTL. Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité ce soir, Jean-Vincent Placé, sénateur de l'Essonne, président du groupe écologiste au Sénat. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis.
Bonsoir et bienvenue dans le grand studio d'RTL pour ce grand jury qui accueille ce soir Jean-Vincent Placé. Bonsoir.
Bonsoir Jérôme Chapuis.
À mes côtés pour vous interroger, Yves Tréhard du Figaro et Éric Revel d'LCI. Bonsoir. Je voudrais vous entendre d'abord sur la mort de cet homme hier dans un commissariat d'Indre-et-Loire. Il avait blessé gravement deux policiers avant d'être tué. C'est un converti qui affichait sur les réseaux sociaux sa sympathie pour l'État islamique. Acte isolé ou concerté, on ne le sait pas encore. Le parquet antiterroriste est saisi. Jean-Vincent Placé, comment se protéger contre de tels actes et surtout comment répondre à l'angoisse que ça génère dans la population ?
C'est pas évident de faire un commentaire à chaud ainsi, parce qu'on ne sait pas si effectivement c'est quelqu'un qui est dans un réseau, s'il y a un aspect collectif ou c'est tout simplement ce qui semble être le plus probable, un fou qui s'est retrouvé là dans cette tentative stupide. Et déjà, ma première pensée va déjà aux forces de l'ordre, qui sont aujourd'hui agressés de cette façon-là. Donc les blessés, bien sûr, je vais leur dire toute ma compassion. Et puis je souhaite évidemment que lumière soit faite. Mais
et la loi antiterroriste, est-ce qu'elle est à la hauteur
On a eu le débat à l'Assemblée au Sénat. Et nous-mêmes, nous avons essayé de trouver un équilibre effectivement entre l'utilité de cette loi et la question des droits de l'homme et la protection des informations sur nos concitoyens. Et on voit bien que n'importe quelle loi ne peut pas permettre de faire en sorte qu'il y ait un risque zéro par rapport à ce type d'individu. Bon, évidemment, dans la conjoncture actuelle, ça interpelle beaucoup qu'il puisse y avoir ce type d'actes qui, certes isolés, sont de plus en plus répétés.
Donc inutile de revoir la loi antiterroriste.
On verra, on sera un peu plus dans 2-3 jours. S'il s'agit d'un réseau, il faudrait voir. Mais moi, je le dis d'ailleurs, y compris dans chez mes propres amis. Le vrai problème, ce sont les moyens de la police, de la gendarmerie, des renseignements. Parce qu'en réalité, on devrait être beaucoup plus informé de ce que sont tous ces réseaux. Et même si on tient des discours martiaux, même si on fait des lois, ce qui compte, c'est de savoir ce que sont ces réseaux, où ils travaillent, où ils se retrouvent dans les différents quartiers. Ceux qu'on a vu, bon, vous vous souvenez, l'espèce d'affaire des péniclés des trois djihadistes de retour par la Turquie qu'on a perdu à Marseille. Enfin, là, il y a quand même un vrai problème de renseignement et de méticulosité. Voilà, je pense que c'est ça le vrai sujet, plutôt que de renforcer des lois qui, au fond...
Décidément, vous en voulez beaucoup au ministère de l'Intérieur. Vous ne loupez jamais une occasion. Vous faites remarquer que Bernard Cazeneuve et le ministère de l'Intérieur n'ont pas été à la hauteur.
Parce que je pense qu'il ne faut pas du tout de polémique politicienne sur ce type de sujet, donc il n'y a pas du tout de problème par rapport au ministre, il y a juste un problème, je le dis, de moyens, il faut faire attention aux bavures, et je sais que les forces de l'ordre font leur maximum.
Tout autre sujet à présent, Jean-Vincent Placé, en cette fin d'année, le gouvernement est engagé dans un bras de fer avec les sociétés d'autoroutes. L'enjeu, c'est notamment la hausse des tarifs de péage qui était prévue pour le mois de février. Cette semaine, il y a un rapport parlementaire qui a été rendu et qui préconise la rupture des contrats de concession. Est-ce qu'il faut aller jusque-là ?
Ça fait très longtemps que nous, les écologistes, nous contestons la privatisation de la façon dont elle s'est faite sous M. de Villepin.
C'est pas une privatisation.
C'est-à-dire ?
Ce sont des contrats de concession.
Oui, d'accord. Oui, oui, vous avez raison.
À l'État à la main, encore.
Monsieur Tréhard, oui, bien sûr, mais les délais sont longs et le contrat est quand même extrêmement lié aux intérêts privés.
Alors, est-ce qu'il faut résilier ces contrats ?
Disons-le, l'entreprise Vinci qui a une forte audience dans les concessions d'autoroutes. Et sur ces concessions d'autoroutes, on a vu qu'il y avait un déséquilibre extrêmement fort entre celui qui effectivement concède et celui qui exploite. Et les bénéfices ont été records. Donc d'évidence, il fallait revoir. Nous étions pour renationaliser, donc je peux reprendre le terme d'arrêter les concessions, mais il me semble qu'aujourd'hui, dans le débat qu'il y a sur l'écotaxe, sur la nécessité de trouver des moyens pour arriver à développer les transports collectifs, de lutter contre le dérèglement climatique, de faire en sorte qu'il y ait des reports modaux. Le fait qu'il y ait là une manne évidente mais nécessite une rediscussion. Soit, effectivement, on reprend ces contrats, soit la pension extraordinaire qui était prévue par Ségolène Royal, notamment de 500 millions, okay. Je crois que cela...
Mais pardonnez-moi, pendant ce temps-là, les concessionnaires autoroutes, et vous parliez du groupe Vinci, continuent de vouloir augmenter le tarif des péages, et pendant ce temps-là, les usagers, les consommateurs continuent de payer de plus en plus cher leur tronçon. Oui. Pendant que les politiques discutent, les consommateurs y payent.
C'était d'ailleurs une des idées qu'on peut trouver originale de Ségolène Royal, qui consistait à faire payer un peu moins le week-end. Alors ça avait fait sourire, mais bon, peut-être est-ce le sentiment favorable que je porte à l'action de Ségolène Royal, mais je crois que son idée, qu'on peut évidemment discuter, c'était de faire en sorte qu'il y ait de l'argent qui aille à l'État, résorber, disons-le, les bénéfices des concessions d'autoroutes et de faire en sorte que les usagers se retrouvent d'une façon ou d'une autre. Voilà, parce qu'elle essaye d'avoir une vision d'équilibre. Et cette vision d'équilibre, il faudrait la rechercher.
Mais le rapport Chanteguet, je propose, oui. qui préconise cette résiliation, dit que ça coûterait quand même entre 25 et 30 milliards d'euros qu'il faudrait emprunter pour ça. Vu l'état de nos finances publiques, est-ce qu'on en a les moyens?
C'est le problème habituel, d'ailleurs, hein, à chaque fois qu'on concède. C'est le même sujet sur l'eau, sur les déchets. À chaque fois qu'on veut soit remettre en régie municipale, voire en régie régionale, le fait que les contrats soient généralement assez bien ficelés en faveur de celui qui exploite rend la tâche difficile. Mais quelque part, le fait que Chanteguet, qui est le président de la commission développement durable à l'Assemblée nationale, qui est socialiste, pose les questions dans ces termes-là, cela va dans le bon sens.
Mais il n'y a pas un
paradoxe, volontarisme. On a besoin d'argent justement pour les transports collectifs. Et c'est normal de faire payer les concessionnaires.
Il n'y a pas un paradoxe pour vous, Jean-Vincent Placé, élu Europe Écologie Les Verts, vous devriez être contre la voiture, contre la pollution. Oui. Donc vous devriez être content qu'on augmente les tarifs de péage.
Je vous ai pas dit que j'y étais opposé, monsieur Péard.
Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Qu'est-ce qui vous gêne? C'est le prix du péage ou c'est le fait que les sociétés... gagne beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette histoire?
Je vais essayer de ne pas faire une réponse basique, parce qu'effectivement, et permettez-moi de dire qu'on peut toujours caricaturer, on pourrait dire
les
écolos, ils vont être, comme d'habitude, pour, c'est un petit peu le sens du propos, pour des taxes, pour augmenter les plus démunis qui utilisent le péage, c'est le même débat sur le diesel, donc on essaie de nous enfermer dans cette contradiction-là. Moi, je ne veux pas être enfermé dans cette contradiction-là, parce que déjà, il y a effectivement les plus démunis, et cela, je souhaite qu'on fasse attention, y compris d'ailleurs quand on les incite à changer leur voiture diesel, y compris quand ils prennent l'autoroute. Donc, avec problème social, il y a le problème de consommation, il y a le problème du pouvoir d'achat, et il n'est pas négligeable, vous l'entendez. Après, pourquoi nous voulions faire l'écotaxe? Tout simplement parce que les transporteurs routiers, notamment ceux qui viennent de l'étranger, comme dirait Ségolène Royal encore, eh bien c'est quand même normal qu'ils payent l'utilisation de nos routes. Je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Et tout cela, ça permettait d'avoir ce fameux milliard
même
pour les 120 projets de transport collectif.
Même quand ils sont italiens ou polonais.
Et bien sûr, il n'y a pas de raison.
C'est une mesure anti-étranger.
Non, ce n'est pas une mesure anti-étranger. C'est une mesure de régulation par rapport à celles et ceux qui payent, c'est-à-dire nous, l'État français, le Conseil les collectivités locales. Et donc, comme on a décalé malheureusement le débat éco-taxe, d'ailleurs sous le gouvernement précédent, celui de Jean-Marc Ayrault dans lequel nous étions, nous nous retrouverons à avoir des mesures pour trouver de l'argent simple, donc augmentation du diesel,
vous avez décalé, vous avez dit, 4 centimes. Quand vous dites décaler le problème de l'écotaxe,
c'était
abandonné.
Plus simple l'écotaxe, je vais vous dire, on va y arriver, y compris en Ile-de-France, on va y arriver à Paris.
C'est pas décalé.
Les portiques sont là, si vous allez dans le monde entier, vous verrez que quand il y a des portiques, eh bien à un moment, on peut mettre en place, oui, mais moi je suis intéressé à cette question-là, de trouver des financements, y compris innovants, par un péage urbain, etc. Donc je sais que, ah là là, encore des taxes, encore des péages. Il faut bien que les gens comprennent aujourd'hui qu'il faut absolument réduire de façon drastique l'utilisation de la voiture, en particulier dans les métropoles.
L'écotaxe n'est pas morte.
Il ne fait pas perdre de l'argent, il en fait gagner avec la même
amélioration. Vous êtes pour le péage urbain?
Moi, j'ai toujours eu le souci qu'il n'y en ait pas un stricto sensu autour du périphérique de Paris. Parce que ça fait un clivage, de la même manière, dans le même débat, banlieue populaire, quartier un peu plus aisé parisien. Et justement, moi, je ne veux pas me laisser enfermer dans cette discussion-là. Mmh. Mais la préoccupation pour la planète doit aller de pair avec la préoccupation pour les ménages les plus défavorisés. Et entre deux, il y a quand même des gens qui font beaucoup de profits. On a parlé de certains transporteurs routiers, on a parlé des concessionnaires d'autoroutes. Eh bien, c'est quand même assez normal.
Pourquoi vous n'avez pas imaginé un système, je dis ça vous, parce que vous êtes dans la majorité quand même, même si vous n'êtes plus au gouvernement. Vous n'avez pas imaginé une espèce de vignette comme en Suisse, par exemple?
Oui, c'est une c'est une idée d'ailleurs qui était sur la table. C'est l'euro vignette. Pourquoi ça fait sourire Éric Revel?
Non, mais parce qu'on parle de taxes.
Il y a sur l'ensemble. Mais en plus, tout ça suscite, comme toujours en France, des débats passionnés. C'est à Stockholm, c'est à Londres, c'est dans l'ensemble de l'Union européenne, un débat assez banal en réalité. Vous savez, comment on finance nos transports collectifs, comment on réduit les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de particules fines, notamment dans les centres-villes, et comment intelligemment on essaye de trouver des moyens innovants sans mépriser les intérêts des plus défavorisés. Jean-Vincent, et cette quadrature du cercle-là et pas de gauche ou de droite, c'était plutôt d'ailleurs des préconisations. Tout ce que je vous dis là, c'était des préconisations du Grenelle de l'environnement sous Jean-Louis Borloo. Donc vous voyez, on a quand même pris, on a quand même pris 7 ans de retard, M. Revel. Vous êtes très en forme et souriant.
Parce qu'il sourit, il a une question.
Je voulais changer de sujet, parce que vous dites débat passionné, il y a souvent des débats passionnés en France. Alors voilà un sujet sur lequel il y a un débat passionné, c'est le fameux aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ouais. Bien. Alors Manuel Valls, premier ministre de son État, explique que l'aéroport va se faire. Ségolène Royal, ministre de l'écologie, découvre le matin que personne ne l'a prévenu, que la décision du premier ministre avait été prise autour de cet aéroport. Quelle est la position aujourd'hui du parti auquel vous appartenez, même si vous êtes un peu frondeur.
Quelle
est votre position sur l'aéroport?
J'ai une spécificité, effectivement.
Quelle est votre position sur l'aéroport?
Très simple, nous sommes extrêmement combatifs contre ce qu'on appelle les grands projets inutiles. C'est pareil, c'est un peu le même débat. On l'a dans le monde entier, on l'a eu au Brésil, on l'a eu en Turquie. De plus en plus, il y a des contestations de grands projets d'aéroports, de grands projets qu'on appelle inutiles. Il y a quand même, en réalité, un affichage politique, y compris dans notre pays, de projets qui ne se verront jamais le jour. Le Lyon-Turin, par exemple.
Oui, mais attendez, vous êtes toujours contre.
Alors, attendez, pour parler de
Notre-Dame-des-Landes, c'est bien, monsieur Trier, c'est bien. On va faire le débat classique
Notre-Dame-des-Landes, on parlera tout ça.
Il y a eu, j'avais dit, il y a 145 aéroports dans ce pays. Et il y a eu un petit fact-checking qui me disait qu'il y en avait 225. Mais les fact-checking de Libération, ils mettaient encore plus d'aéroports, même les tout petits aéroports. Donc, je maintiens mes 145. Il y a 145 aéroports dans ce pays. On ne sait pas pourquoi on remettrait encore 1 milliard alors qu'il y a un aéroport à Angers, il y en a un à Rennes, il y en a déjà un à Nantes, il y en a un à La Rochelle. Il y a des aéroports partout. Non, il n'est pas trop petit. Il n'est pas du tout saturé. Il marche très très bien. Je vais même vous dire, ça va peut-être faire hurler. J'ai dû faire un jour un Nantes-Madrid et ça fonctionne très très bien.
Mais quand Manuel Valls dit le chantier va commencer mi-2015 quand tous les recours juridiques seront épuisés, vous dites quoi? Que c'est une erreur?
Déjà,
vous dites qu'il se met
déjà,
dans l'œil?
C'est une façon, quand il y a probablement en Europe que l'exécutif français qui tient des phrases comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un recours qui est fait et quand le recours sera fini, c'est-à-dire on attend la notification de non-validation du recours et donc on va commencer. D'ailleurs, il peut y avoir d'autres recours possibles parce que nous sommes dans un pays de droit, y compris la majorité municipale de Nantes avec nos amis socialistes, avec la maire de Nantes, Johanna Roland. Nous sommes convenus que nous attendions l'épuisement des recours, de l'ensemble des recours. C'est-à-dire que, y compris le premier ministre.
Alors, la maire qui remplace Jean-Marc Ayrault pourrait déposer un recours contre l'aéroport?
Non, dans l'accord municipal qui a permis que nous ayons une discussion d'entre deux tours pour pouvoir arriver ensemble aux responsabilités, il a été convenu avec l'ensemble des parties qu'il y aurait épuisement des recours pour ensuite voir ce que les uns et les autres feraient dans le cas des prises de position des uns et des autres dans le respect de l'opinion de chacun. Donc c'est ça le sujet qui est très clair. Donc le Premier ministre va même au-delà de ce que demandent les socialistes du coin. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Et je vais vous
avez
dire,
dit, on est dans un
intéressé plus globalement. Je ne comprends pas très bien, alors que justement il y a une volonté du président de la République rassembler sa majorité, d'être plus à l'écoute sur les questions sociales, d'être plus à l'écoute sur les questions européennes. Moi, je me permets de le dire, je ne suis pas devenu du jour au lendemain pro-président de la République. Je note juste que sur tout ce que j'ai dit depuis le début, sur la question du traité européen, sur la question des 3%, l'austérité et la rigueur, tout cela se décoince. Il y a un frémissement net, y compris par rapport à la commission Juncker et son plan de 300 milliards, y compris par rapport à ce que fait la BCE, y compris sur les 3%, plus personne n'en parle, y compris sur l'écologie.
Je déplore
que le propos tenu, et cela va vous intéresser, le propos tenu sur Notre-Dame-des-Landes par le Premier ministre me paraît en très forte contradiction avec ce que veut faire le président de la République, c'est-à-dire rassembler sa majorité, et y compris avec les écologistes.
Il est
donc, moi, je trouve ça extrêmement négatif.
Il est pour le président de la République pour cet aéroport.
Après, c'est quoi, les voix. Pas le porte-parole.
Il fait, vous fait souvent des confidences.
Je ne suis pas le porte-parole.
Il vous emmène en voyage.
Vous emmène en voyage.
Je ne suis pas le porte-parole du président de la République. Je ne raconte pas nos conversations. C'est bien le.
Mais là, vous en avez un petit peu quand même. Vous avez laissé entendre qu'il pouvait y avoir une contradiction entre le président de la République et le Premier ministre.
Vous avez bien voulu écouter précisément ce que j'ai dit. J'ai dit que le président de la République souhaitait infléchir. Il le fait d'évidence depuis septembre. Ça a été très pollué par nombre d'événements divers et variés qui ont fait la chronique politique. Mais depuis la rentrée politique, il y a une inflexion, je viens de le répéter, sur l'Europe, sur l'attention à des questions sociales, le déplacement sur le logement, sur la politique de la ville, sur l'ANRU dans le Nord était dans cette idée-là, la loi de transition énergétique, la loi sur la biodiversité, la préoccupation pour le dérèglement climatique.
Ce que vous avez dit, c'est que sur l'ensemble de ces sujets, essaie de rassembler sa majorité et que Manuel Valls, lui, la divise plutôt.
En posant cet acte-là, de dire je vais faire coûte que coûte l'aéroport
Notre-Dame.
Je dis que c'est en lourde contradiction, ce me semble, et c'est ma position personnelle sur le sujet, avec ce qu'il faut faire pour, vis-à-vis de l'action générale et globale du président.
C'est une faute du Premier ministre ?
C'est une contradiction.
Ah oui. Jean-Vincent Placé, vous avez dit tout à l'heure, on est dans un pays de droit, si jamais tous les recours juridiques étaient épuisés et qu'il était donc décidé de construire cet aéroport, vous l'accepteriez ?
Non mais... Je suis pas, c'est ça qui différencie votre activité et la mienne. Moi, j'essaye d'agir et de peser sur les événements. Donc,
non, parce nous sommes dans précisément la question qu'il y a derrière.
Et j'essaie pas de me mettre dans me mets pas dans la situation où je n'ai pas gain de cause. J'essaie justement avec la mobilisation pacifique. Non,
c'est la question de la fin des moyens que je voulais vous poser parce que ça rejoint ce que Istréa voulait.
Mais ça, c'est-à-dire la question débat sur la fin des moyens,
de la contradiction et d'un phénomène qui est apparu. Au grand jour cette année, qui est le phénomène du zadisme, qui est né d'ailleurs à Notre-Dame-des-Landes, qui s'est poursuivi pour des raisons tristes et dramatiques à Sivens, avec la mort de Rémi Fraisse. Est-ce que vous considérez qu'il y a des cas où la désobéissance est justifiée? Et si elle est justifiée, jusqu'où? Jusqu'à quand?
C'est un vieux débat qu'il y a dans notre mouvement, et puis dans le cadre des manifestations de façon générale. Moi, je note que dans ces premières années, depuis même plusieurs années. Il est de plus en plus difficile de se faire entendre par les pouvoirs publics. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a de plus en plus de manifestations. Et qu'est-ce qui se passe? Ces manifestations sont de plus en plus violentes. Je pourrais vous faire un long développement, mais ce n'est pas l'objet de ce soir. Je pense qu'on est au bout de la Ve République, que les corps intermédiaires ne sont pas assez écoutés, y compris le Parlement, y compris les syndicats, y compris les structures religieuses, etc. Enfin, on a un problème dans la démocratie française où on arrive mécaniquement, d'ailleurs, à ce qui fait le fondement de la Ve, qui était le cas en 1960, c'est-à-dire la relation directe entre le tout en haut et le tout en bas. D'où les manifestations.
Oui,
et ce ne sommes pas nous qui sommes les plus violents.
Je vois
les manifestations des agriculteurs. Bien sûr que si.
Mais non, regardez, je vais vous citer un cas.
Allez-y.
Europa City, en banlieue parisienne, dans le Val d'Oise. Grand centre de loisirs commercial, un peu mélangé.
Démesuré.
Et tout de suite, se mettent en branle les écologistes qui sont contre, comme ils sont contre quasiment tous les projets dans ce pays. Et vous faites un sondage, ça a été fait ce week-end, auprès de la population. 80% des habitants du secteur sont pour ce projet, parce que ça fera de l'emploi, ça fera de la croissance, ça fera des facilités d'accès au commerce. On a l'impression que chez vous, il y a un systémisme.
Non, il y a
vous
pas
êtes
de...
contre.
Alors, rapidement quand même, pour finir le propos, parce que je constate que vous êtes très très attentif aux manifestations qui sont sur des thèmes écolos, vous l'êtes quand même beaucoup moins, Monsieur Tréhard, lorsqu'il s'agit des exactions incroyables des agriculteurs à Morlaix, ou même de ce qui s'est passé à Paris sur la manif pour tous, voire au-delà. Mais bon,
on en a parlé pour tous.
Voilà, donc remettons les choses en perspective. Je le dis aussi, nous sommes très clairs, les responsables d'Europe Écologie Les Verts, pour dénoncer tout ce qui est du domaine de la violence dans les manifestations dans lesquelles nous sommes présents. Ce sont les écologistes, sont pacifiques, non violents, citoyens, et je voudrais pas qu'on fasse l'amalgame. On avait déjà eu une discussion un peu vive avec M. Bollin, qui nous avait traité de djihadistes verts, et je voudrais pas qu'on ait le même débat dans cette entre nous ce soir. Et par rapport à ces dossiers-là, nous avons une philosophie politique et nous la portons. Ce qui est tout de même incroyable, c'est qu'on nous explique aujourd'hui qu'on n'a plus un euro, qu'on réduit les subventions, qu'on réduit les dotations aux collectivités locales, qu'on fait moins d'embauches de fonctionnaires, et on trouve toujours, bizarrement, toujours énormément d'argent, y compris d'ailleurs grâce à la défiscalisation, hein, c'est quand même à la fin aussi notre argent, pour
Europacity,
pour le Center Park à Roibon, dans l'Isère,
où nous sommes
en action également, parce que nous portons une vision de la société qui n'est pas celle du consumérisme BA.
Votre analyse.
Très clairement, moi je suis totalement à soutenir les amis et les militants dans ces combats-là qui sont justes.
D'accord. Le zadisme qui consiste à décider qu'une zone, un territoire, attendez,
vous n'avez rien à voir avec les zadistes.
Les zadistes, non.
Ah bon?
Les zadistes, la façon de faire.
C'est qui
zadistes.
Alors les zadistes? Alors
les zadistes, ce serait d'ailleurs très intéressant d'avoir plus de renseignements sur ceux qui sont.
À chaque fois, c'est des écologistes. Comme... quoi.
Non. Il y a quelques écologistes.
On est allé faire alors,
très bien. Alors,
ma question est d'autant plus intéressante.
Il y a aussi des gens qui, ceux-là ne sont pas violents.
Qu'est-ce que vous pensez?
Ceux qui viennent dans les manifestations et qui viennent aussi, d'ailleurs, bouger de manifestation en manifestation. Moi, ça m'intéresserait de savoir ceux-là, comment on pourrait les contrôler davantage. Et je pense que ce n'est pas le rôle des écologistes non violents et citoyens de gérer ces personnes-là. Et c'est pour le coup les pouvoirs publics qui devraient avoir davantage de renseignements.
Moi, je ne comprends pas comment on fait avec les zadistes aujourd'hui en France.
Je ne comprends pas. Je dis juste que les zadistes, parce que je sais comment ça tourne à la fin, il y en a évidemment de gens très pacifiques, citoyens, qui sont présents et qui sont dans la cause. Et il y a à côté de cela une petite minorité agissante, comme on a pu le voir effectivement dans la casse à Notre-Dame-des-Landes. Oui, c'est ce qu'on dit, et je voudrais, et là je le dis encore, et ça n'a rien à voir avec M. Cazeneuve, je voudrais qu'on me dise qui ils sont, comment ils se baladent. Si on me dit ils viennent de l'étranger, ils font des petits sauts de puce sur ce type de lutte, et ils sont violents.
Vous vous installez sur le terrain, vous empêchez
non,
tout.
Non, nous sommes, M. Tréhard,
vous habitez
manifestants pacifiques, dans parfois dans les arbres, ça vous ferait rire, et tout ça est très sympathique. Voilà, et cela, il ne cause de problème à personne.
Une question pour clore le sujet, Eric.
Parce que c'est intéressant de vous entendre parler du zadisme, parce qu'en réalité, on peut se poser la question suivante, dès l'instant où un projet un peu structurant, qui va intéresser quelques hectares de forêts ou de prairies, va être mis en place en France, on a l'impression qu'on ne pourra plus jamais rien construire. Ben, vous citiez tout à l'heure le parc de loisirs, citons-le Center Parks, qui essaie de s'implanter à Roibon, dans l'Isère. Là, il y a une nouvelle zone à défendre. Des individus viennent et disent cette zone ne sera pas construite. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut construire dorénavant en France si à chaque fois qu'un projet structurant qui crée des emplois est mis de côté par une poignée que vous dénoncez
mais
vous-même.
Il y a une culture incroyable dans ce pays. C'est une tradition, je pense, productiviste, qui ne marche pas d'ailleurs depuis les années 70. On essaie de faire des gros projets, souvent d'ailleurs avec l'aide de la puissance publique. Ce sont d'ailleurs des libéraux qui sont toujours aidés par la puissance publique et par la défiscalisation. C'est le cas à Roibon, hein, parce que...
Pierre Vacances.
Oui, le système économique, c'est la défiscalisation pour celles et ceux qui investissent. Et vous le savez, l'entreprise Pierre Vacances, elle, ne fait qu'exploiter. Bon, et rémunère d'ailleurs, tout à la fois, sans beaucoup rémunérer ceux qui achètent ces logements, et ça devient pour un coût assez important pour ceux qui viennent. Et souvent, et parce que l'idée est de trouver des zones où il y a, par exemple, des arbres séculaires. Il y a un environnement qui est formidable, et quel est l'intérêt de venir justement là? Le coût environnemental, le coût énergétique, le coût en eau, franchement, on est en contradiction incroyable. On achève depuis 30-40 ans, on a toujours fait les grands travaux, on a mis en place des zones commerciales partout où il n'y a pas un rat, on a mis en place des aéroports où il n'y a personne, en effet, et on continue comme ça. Alors que justement
disent
qu'il y a une paupérisation...
Que vous montrez du doigt, c'est là que je ne comprends pas, c'est totalement... Il y a une sorte d'incohérence. Vous expliquez que les zadistes ne sont pas des gens forcément responsables, mais à chaque fois qu'ils sont présents sur les territoires, vous défendez cette position.
Nous défendons cette position, parce que nous sommes contre ces projets-là, et c'est clair, ce qu'on appelle les grands projets inutiles. Nous sommes présents, c'est bien le moins, de façon pacifique, citoyenne, à l'écoute. Oui, effectivement, il y a, et c'est beaucoup mis, je trouve, en exergue, beaucoup, beaucoup. Parce que quand je vois ce que font les manifestants de la FNSEA, aussi bien à Nantes, ou ce qu'ils ont pensé utile, alors vous allez me dire, c'est pas pareil, mais tout de même.
Mais ils défendent leur boulot.
Oui, bien sûr, et puis ils arrivent.
Au barrage de Sivens, ils viennent pour défendre
ils balancent des bombes sur des ragondins qui le massacrent devant les gens. Ensuite, à Morlaix, ils brûlent le centre des impôts et la MSA, faut quand même pas être très malin qu'on ait agriculteur pour aller brûler le site de la Mutualité sociale agricole.
Mais ils défendent leur boulot.
Je voudrais quand même noter que pour quelques personnes qui sont extrêmement violentes, et je me permets de dire qu'il y a eu un mort, et c'est un mort, un jeune militant écologiste de France Nature Environnement. Donc je voudrais quand même pas qu'on essaye d'incriminer ceux qui, dans les combats, ont des morts et ceux qui brûlent partout et de façon extrêmement volontaire et sans trop avoir, en réalité, de sanctions par la suite.
Alors, Jean-Vincent Placé, je voudrais qu'on ouvre un chapitre qui va nous amener après la pause de 19h, chapitre électoral, puisque 2015 est une année électorale. On va commencer par la fin, les régionales, l'hypothèse d'un changement de date est évoquée. Elle pourrait être avancée de décembre à octobre. Est-ce que ce serait une bonne idée ?
Alors, j'ai cru comprendre que l'Élysée et Matignon avaient démenti. Et pour ne rien vous cacher, c'est une proposition que moi, je fais depuis 6 mois. C'est-à-dire avant la conférence, la COP21, la conférence sur le climat, ou après, mais pas pendant. Parce que fin novembre...
Elle a lieu en décembre.
Oui, c'est un peu compliqué quand même, je pense, pour faire une conférence sur le climat qui va être, et j'espère qu'on va quand même en parler, hein, je ne veux pas faire
on
les
questions.
On va
évidemment en parler.
Mais c'est quand même le sujet principal de l'année prochaine, c'est probablement le sujet du quinquennat. C'est quand même un peu malheureux qu'on ait les élections régionales au même moment. Actuellement, il y a Nicolas Hulot qui se mobilise énormément aux côtés du chef de l'État pour qu'on arrive à quelque chose de satisfaisant. On essaye, et y compris j'étais avec Nicolas jeudi dernier, nous sommes convenus de mobiliser l'ensemble des parlementaires, quels que soient d'ailleurs les bords politiques, sur ce projet qui est extraordinaire et sur lequel la France peut avoir une forte visibilité, une forte aura et aussi un fort impact économique sur les énergies renouvelables, sur tout ce que nous voulons faire de la mutation et conversion écologique de l'économie.
Si on fait
et
les
ce
élections,
sujet-là,
si
il
on,
est fondamental.
Si pour on vote pour les régionales en octobre, ça veut dire que les Français rentrent début septembre, ça fait 3-4 semaines de campagne pour les régionales, pour des régions toutes neuves que les Français ne connaissent pas encore. Est-ce que c'est suffisant ?
Il faut parler de quelque chose de réel, c'est que de toute façon dans la loi c'est marqué en décembre. Moi je l'avais déploré, je vous le dis à ce moment-là, donc je ne pense pas que ça a changé, mais je n'enlève pas les arguments que j'avais déjà utilisés, même sans avoir convaincu.
C'est une élection, c'est une année qui n'est pas simple à préparer pour les écologistes, les départementales d'une part, les régionales, parce que vous n'êtes pas d'accord entre vous sur la stratégie à mener. Est-ce que le Parti Socialiste doit rester le partenaire privilégié d'Europe Écologie Les Verts?
Mais moi, mon problème, ce n'est pas le Parti Socialiste, mon problème, c'est le Parti Écologiste. Et depuis...
C'est un problème, le Parti Écologiste?
Non, ce n'est pas un problème, c'est une solution.
C'est ce que vous avez dit.
Puisque... Non, c'est...
Non, si ce n'est pas c'est votre pas problème, le Parti Socialiste, c'est un problème.
Fallait la chercher, il est très rare, celle-là. J'essaie de me dire, mais qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, effectivement, ce n'est pas le problème, le Parti Socialiste, c'est le Parti Écologiste.
En tout cas, le Parti Socialiste, c'est un problème c'est pour votre responsable des élections, David Cormand, qui dit ce matin dans le journal du dimanche, le PS est un répulsif. Il faut voir si des alliances alternatives créent l'attractivité. Le PS est un répulsif ?
Non, moi, je ne dirais pas ça. Et d'ailleurs, de façon générale, il faut éviter les propos désagréables vis-à-vis de celles et ceux qui sont les partenaires. D'ailleurs, les partenaires du quotidien. Parce que David, qui est un ami, est dans la majorité régionale avec M. Rossignol, le président de la région Haute-Normandie. Et je crois qu'il est très content d'être dans cette majorité et de travailler avec les socialistes. Donc, il faut éviter les grands écarts entre chez moi à Rouen et puis à Paris de faire l'antisocialiste. Ça, il vaut mieux être non pas dans la contradiction, mais dans la constance et la cohérence. Sur le sujet lui-même, moi, mon problème, c'est le Parti écologiste pour le renforcer. C'est ce que je fais depuis, je crois, 13-14 ans que j'y suis. Donc à chaque élection, j'essaie de voir comment on peut renforcer le Parti écologiste. Et on va se dire aussi les choses très franchement. J'ai énormément de respect pour les associations, pour toutes les structures ONG. Ce qui différencie un parti, c'est quand même d'essayer de gagner des élections et donc d'avoir des élus.
Jean-Vincent Placé,
ça paraît un peu caricatural de dire ça, mais tout de même.
Vous essayez de nous expliquer.
Un mot. Et donc, par exemple, pour les cantonales, départementales, le mode de scrutin nécessite des alliances. Donc il vaut mieux faire des alliances pour avoir des élus. Ou alors,
mais vous,
si
vous
on
êtes
veut
pour
juste...
des alliances avec le Parti Socialiste.
Moi, j'ai dit que quand la majorité départementale sortante, ce qui est le cas chez moi dans l'Essonne, autour du président Jérôme Guedj, qui en plus est un frondeur, c'est pas son propre principal, mais il a fait un énorme travail au niveau du département sur les politiques publiques, sociales, d'aménagement, écolo, sur la lutte contre les discriminations, sur l'égalité femmes-hommes, enfin, il a un bilan remarquable. Donc on a fait un accord avec lui. Voilà. En Seine-Saint-Denis, de la même manière, je salue Stéphane Gatignon qui est ici dans l'assistance. On a fait un accord avec les amis de Claude Bartolone et de Stéphane Troussel, le président du Conseil Général, parce qu'ils ont un bon
donc
bilan.
Donc les accords, c'est
travaillé.
Possible avec le Parti Socialiste.
Après, j'imagine bien que dans le Tarn, ce serait compliqué.
Compte tenu de Sivens.
Le débat par silence. Donc ce qu'on fait, c'est au cas par cas, sur des dossiers de fond et pas seulement parce que nous aurions des problèmes au niveau national. D'ailleurs,
je vais vous couper
mes propres amis
parce que c'est
une phrase que mes amis sont un peu dans une contradiction en disant nous on veut travailler global et local, en disant si la politique nationale n'est pas bonne, je ne suis pas d'accord au niveau des départements. Ça n'a pas beaucoup de sens.
On va reparler de tout ça dans quelques minutes. On laisse passer les informations. On se retrouve juste après 19h. À tout de suite.
Vous écoutez RTL. Suite du grand jury, RTL, Le Figaro LCI. Invité ce soir, Jean-Vincent Placé, sénateur de l'Essonne, président du groupe écologiste au Sénat. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis.
Nous sommes de retour dans le grand studio de RTL avec Jean-Vincent Placé. Vous nous disiez tout à l'heure que ce qui vous intéressait, c'était pas tant le PS que Europe Écologie Les Verts, votre parti. Et Le Monde rapporte cette phrase de vous cette semaine, le journal Monde. Si l'écologie politique devient l'écologie gauchiste, ça n'a plus d'intérêt. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Parce que je trouve que depuis que nous sommes sortis du gouvernement, il y a une petite dérive à toujours tout contester, toujours s'opposer et au final proposer moins de solutions alors que justement la parole des écologistes est très très attendue, en particulier juste après la conférence sur les partis des partis à Lima.
Vous visez qui, vous visez Cécile Duflot ?
Non, je vise personne parce que je suis dans le souci de l'unité du rassemblement et il me semble que dans cet enjeu qui arrive là, on n'a pas à faire la courte échelle soit à Mélenchon, soit même aux frondeurs. Moi, les frondeurs, j'ai beaucoup de sympathie pour eux, ils sont super, sauf que, d'ailleurs, souvent, j'ai les mêmes préoccupations sur le droit du travail, sur les budgets, sur l'austérité, sauf qu'ils ne parlent jamais d'écologie.
Mais est-ce qu'il pourrait y avoir
Nous sommes le parti écologiste. Et quand, je le répète, parce qu'on a le débat sur la conférence climat, la conférence climat, c'est d'essayer de savoir comment on pourrait faire en sorte que d'ici 2050, 2060,
non,
mais je sais que ça vous, je veux dire, à un moment, il faut que je parle à la conférence climat, parce que sinon j'aurai droit aux 10 questions politiciennes pour faire deux lignes dans le Figaro ou une dépêche AFP, et je voudrais quand même parler d'écologie,
vous voyez. Précise, vous n'êtes pas d'accord entre vous, il y a deux ligne à l'intérieur d'Europe Écologie Les Verts.
Moi, ma ligne,
il y a la ligne
gauchiste
que vous regrettez,
c'est
qui est celle de Mme Duflot. Et vous, la ligne légitimiste par rapport à Hollande.
Je sais que vous aimez les résumés, c'est plus simple peut-être pour faire des titres. Et je pense que la politique, c'est plus complexe que ça. Moi, ce que je fais, c'est j'essaye de renforcer l'écologie. Donc, quand on parle des élections, on essaie de faire en sorte qu'il y ait des élus écologistes. Mais ce n'est pas l'essentiel, en réalité.
Il faut que vous occupiez moins de la Palestine et des Roms.
On veut, et je viendrai, on veut avant tout parler de la conférence climat. Des questions d'ailleurs liées et au climat et aux questions sociales. Parce que ce sont les plus défavorisés.
Non, monsieur, vous dites que la ligne des Verts est confuse aujourd'hui. La ligne
des défavorisés, ce sont ceux qui subissent le plus les dérèglements climatiques. C'est le problème des réfugiés climatiques si on globalise. C'est le problème aussi de tout ce qui se passe en termes d'aménagement quand on est au bord du littoral ou quand on est dans des endroits où le dérèglement produit un tel changement que les conséquences économiques et sociales sont dramatiques pour les populations. Nicolas Hulot prend maintenant un exemple extrêmement simple et qui tout le monde peut comprendre. C'est que à cause du dérèglement climatique, notamment en Syrie, il y a eu 1,5 million de personnes qui ont été déplacées justement vers le sud de la Syrie, vers le nord de l'Irak. Et ça aussi, parmi tous les autres sujets,
c'est quand même la guerre aussi,
un des éléments de déstabilisation de la zone.
Alors,
vous voyez,
sur...
ce ne sont pas des petits sujets.
Okay.
Donc, priorité à l'écologie.
Alors, tout à fait complet.
Et, non, mais je peux répondre sur les Roms et sur...
Oui, alors justement, justement.
Je suis sûr que ça vous passionne.
Non, parce que la citation exacte, c'est celle-là. Aujourd'hui, vous dites, on est devenu le parti des Roms et de la Palestine. On finit par se poser la question de son existence et de son utilité.
Oui. J'ai dit d'ailleurs au journaliste concerné d'un grand journal du soir qu'il avait oublié quand même la première partie de la phrase. La première partie de la phrase, c'est « Si je partage l'ensemble de ces combats, je ne souhaite pas que nous soyons identifiés uniquement comme le parti des Roms et de la Palestine. »
Mais pardon,
et je suis très à l'aise.
Pardon,
non, mais
vous avez appelé les lycéens à manifester contre Leonardo à l'époque.
Pour Leonardo.
Je suis très à l'aise sur ces
sujets-là. Pour Leonardo, vous vous souvenez.
Aussi bien les Roms.
Donc
que
vous avez
sur
fait
des partis
dans lesquels vous êtes un parti aussi qui traite de cette question.
Bien sûr, et j'assume. Vous avez devant vous celui qui est l'un des cinq rédacteurs de la proposition de résolution pour l'État de Palestine et sa reconnaissance. Il y a Leïla Aïchi qui est là, qui est sénatrice, il y a Esther Benbassa également qui est dans mon groupe, et tout le groupe, nous avons porté et voté cette reconnaissance qui me paraît extrêmement importante par rapport à la situation dramatique dans laquelle vivent les Palestiniens aujourd'hui avec la politique incroyablement belliqueuse de M. Netanyahou. Donc, je suis très clair. Et je veux vous dire une chose sur les Roms. Oui. Les Roms, ceux qui faisons la vraie politique pour les Roms, c'est notamment Cécile Duflot, qui, quand a été ministre du Logement, a fait en sorte qu'avec Jean-Marc Ayrault, il y ait une circulaire qui s'applique toujours et qui est équilibrée, respectueuse pour les Roms, respectueuse aussi. Mmh. Si, c'est pas vrai, d'ailleurs, on entend de moins en moins parler. Et ce qui avait été fait, et il faut lui rendre justice, par Dominique Voynet à Montreuil, était un travail remarquable d'intégration de ces populations. Ce qui veut dire que quand on veut le faire, on le fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Parce que quand je dis je ne veux pas que nous soyons uniquement le parti des Roms et de la Palestine, je souhaite qu'on mène évidemment l'ensemble de ces combats. Nous avons beaucoup de combats sociaux, sociétaux et internationaux. Je dis juste priorité à l'écologie. Mais
on l'a compris. Arrêtons
de nous disperser. Parlons avant tout d'écologie. Et au lieu de dire et de demander des brevets d'écologie à la terre entière, je pourrais vous dire sur 15 sujets, monsieur.
Attendez, parce qu'on n'arrive pas à vous poser de questions.
Je veux juste dire une chose à mes propres amis. Quand on veut avoir un accroissement de l'audience des écologistes, il faut se concentrer sur des idées qui sont les plus partagé, sans évidemment mépriser les autres sujets qui sont importants pour la philosophie écologiste. Mais priorité au climat, à la biodiversité,
est-ce que vous pouvez répondre
à la transition énergétique.
À cette question, il n'y a aucun risque de scission à l'intérieur d'Europe Écologie Les Verts d'ici au prochain mois.
J'ai juste dit.
Alors qu'on sent que vous voulez vous rapprocher de Jean-Luc Benamias qui a quitté.
Je salue d'ailleurs Christophe Madrol qui est là, qui est le secrétaire général du Fonds démocrate
et social. Que vous avez voulu exhumer Génération Écologie qui est née dans les années 90.
Je vous l'ai dit, monsieur Tréhard, je veux renforcer l'écologie. Et donc, et ce ne sont pas des petites structures.
Vous êtes un centriste par rapport à Mme
Duflot. Était secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Christophe Madrol a été longtemps un de nos camarades. Ils ont fait un parcours très bien, d'ailleurs je n'ai aucun commentaire à faire, avec François Bayrou pour porter l'écologie dans cette formation. Ils veulent travailler en lien avec nous, c'est une bonne chose. Yves Pietrasanta, le patron de Génération Écologie, de la même manière. Corinne Lepage, de la même manière. Les écologistes, je le dis, au Sénat, nous avons la chance d'avoir Chantal Jouanneau. On travaille formidablement bien avec Chantal Jouanneau. Nathalie Kosciusko-Morizet, depuis qu'elle est à Paris, a pris peut-être un autre parcours, mais quand elle était ministre de l'écologie et des transports, on a pu faire avancer.
On est très loin de Mme Duflot, là.
Nous sommes aujourd'hui dans une crise telle, avec la perspective non pas de 2 ou 3 degrés pour la planète d'augmentation, une perspective de 5 à 6 degrés. Non mais ça vous fait sourire, mais je vais vous donner un exemple très simple. Plus personne ne boira de Bordeaux dans 100 ans si on continue comme ça. Oui, ça, c'est un exemple qui parle. Hein. Pourquoi ? Parce que dans le Bordelais, il y aura, je vois que ça parle à beaucoup de monde. Eh bien, c'est 4 degrés de plus. Donc, même si c'est pas mauvais, on aura le vin. D'ailleurs, j'essaie de trouver un pays pour ne pas me fâcher, mais un vin vraiment du Sud, vous voyez ? Et c'est une vraie difficulté. Et vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est qu'il va y avoir un tel bouleversement qu'on doit tous mobiliser pour la planète.
Alors, simplement,
moi, je suis écologiste et je suis très fier de l'être.
Éric Revel, très rapidement.
D'écologie, mais quand même, quand vous dites le groupe auquel j'appartiens a soutenu la reconnaissance d'un État palestinien,
Nous l'avons initié.
Vous savez mieux que quiconque, Jean-Marc Semplacé, le timing en politique est déterminant. Donc pourquoi avoir mis cette question aujourd'hui au Sénat et à l'Assemblée nationale ? Sinon, on peut reconnaître une chose, c'est que François Hollande, qui avait promis le vote aux étrangers, ne l'a pas fait pour l'instant.
C'est quoi le rapport, je
vais vous le dire.
Vous allez arriver dans un amalgame.
Pas du tout. Ouais. Non, vous ne souhaitez peut-être pas cet amalgame, mais on peut se poser la question. Est-ce que ce n'est pas une façon de récupérer le vote étranger et par exemple, le vôtre.
Donc vous essayez de me dire que parce que nous avons fait la proposition sur la Palestine, vous essayez d'importer le conflit chez nous et vous pensez que c'est comme ça que les gens de la diversité dans les quartiers vont répondre à cause de ça.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le timing politique compte ?
Non.
Le timing politique ne compte pas lorsqu'on fait une proposition.
C'est un peu choquant ce que vous dites, permettez-moi de vous le dire. Et justement, le problème que nous avons, les responsables républicains français, c'est de ne pas importer le conflit. Et pour ne pas importer le conflit.
Et là, vous n'avez pas l'impression que c'est ce qui va se passer ?
Non, bien sûr que non.
D'accord.
Parce que moi, vous le savez, j'ai même une spécificité dans mon propre parti. Je soutiens l'État d'Israël dans son existence et dans sa sécurité. C'est assez rare que certains de mes amis le disent. Sauf qu'aujourd'hui, ça va trop loin. La colonisation est inacceptable. Ce qui compte, c'est le droit international, c'est les frontières de 67, la ligne verte. Moi, je soutiens, si on rentre dans la technique, le plan Olmert, plus 5, plus 6%, avec une connexion avec Gaza, et ça a failli aboutir en 2007-2008. Et je déplore évidemment que nous sommes plutôt dans les ferments de la guerre que de la paix. Là, la politique d'Israël est inacceptable. Ce que fait Netanyahou est inacceptable. C'est en ce sens-là que que nombreux à gauche, nous avons considéré indispensable qu'il y ait une pression internationale
même si dans
nos pays et auprès de l'ONU.
Le Hamas qui, lui, ne veut pas d'État israélien.
Il est évident qu'il ne peut pas y avoir de discussion avec le Hamas tant qu'ils n'auront pas reconnu, justement, l'existence.
On a compris votre position.
Je suis très clair là-dessus. C'est pour ça que, d'ailleurs, on en parle beaucoup, parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup. Parce que c'est le fait. Mais j'ai voulu dire aussi à mes propres amis que, fier de mes valeurs, fier de nos convictions communes sur ce sujet, c'est pas la peine non plus de passer comme malheureusement, j'ai vu ça cet été, même en vacances, quand le 31 juillet, on a la loi de transition énergétique qui est présentée par Ségolène Royal, il y a 3 mails, et il y en a 200 pour la Palestine. Vous voyez ?
Donc moi, alors, Jean-Vincent Passé, on a bien compris que vous étiez là, notamment pour parler d'écologie. Alors on va en parler, parce que quand on est membre d'Europe Écologie, on regarde ce qui se passe en matière d'environnement à Bruxelles. Or, cette semaine, la commission Juncker a présenté son programme législatif pour 2015 et elle a renoncé à tout ce qui concerne la lutte contre la pollution et en faveur du recyclage. La commission dit qu'il faut se concentrer sur ce qui crée de l'emploi. Vous en pensez quoi ?
C'est inacceptable. Il y a eu un affichage intéressant de la commission Juncker sur la question du plan Juncker, les fameux 300 milliards. Bon, j'espère qu'on les verra un peu plus que les 120 qu'on avait indiqués dans le...
Que François Hollande avait indiqué.
Madame Merkel, François Hollande, en 2012, pour nous faire avaliser le traité européen. Donc vous voyez, j'ai de la mémoire à ce niveau-là. Je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse avoir une conversion sur ces budgets et sur ces 300 milliards pour des investissements d'infrastructures, sur le numérique, sur l'agroalimentaire, sur évidemment l'énergie et les transports, sur le bio. Et on voit bien que cette commission est quand même très libérale. Parce que,
une fois qu'on a dit que c'était inacceptable, qu'est-ce que vous faites
message, et bon, avec
une fois que vous avez dit que c'était inacceptable, qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous faites ?
Je souhaite, moi, pour ma part, que la France, qui justement va être motrice dans le combat contre le dérèglement climatique, contre les émissions de gaz à effet de serre, s'interroge pour dire que si justement il y a la connexion d'un plan productiviste de la part de M. Juncker et que sur tous les éléments que vous avez indiqués sur l'économie circulaire, sur les déchets, sur la lutte contre la pollution, eh bien ça ne se retrouve pas dans les priorités de l'agenda Juncker, il y aura un vrai problème.
Et ça, vous ne pèseriez pas plus, votre voix ne pèserait pas plus aujourd'hui, la vôtre ou celle d'autres écologistes, si les écolos étaient aujourd'hui au gouvernement ?
Ah, je me disais bien que ça allait arriver. Bah, généralement, c'est la deuxième ou troisième question. Là, vous avez la gentillesse de me poser 5-6 questions de fond. Enfin, moi, je me suis battu.
On a parlé d'écologie.
Pardon, mais en règle générale, les rapports de force sont connectés aux questions de fond. Et c'est aussi pour ça qu'on vous les pose comme ça.
Je l'ai eu l'occasion de le dire. En 13 ans de vie politique avec Cécile Duflot, on a eu une divergence. C'est la sortie du gouvernement au moment où on lui proposait qu'elle soit ministre de l'écologie. Je pense qu'on aurait pu peser davantage encore, même si Ségolène Royal fait un bon travail, dans tous ces sujets-là. Écologie, transport, énergie. Ma conviction est que je n'essaie pas de me tourner vers le passé. Ma conviction, c'est de me dire à quoi nous servons, nous, les écologistes, au Parlement, et je crois qu'on sert. On n'a pas parlé de la loi Macron, mais vous auriez pu dire que nous avons fait retirer Cigéo, le site d'enfouissement, qui était dans le texte, et après une discussion avec Emmanuel Cos, Barbara Pompili, François de Rugy et moi-même, le ministre s'est dit, c'est pas la peine de mettre un chiffon rouge vis-à-vis des écolos, ça va être assez compliqué sur les autres dossiers, y compris le travail le dimanche et autres. Donc il a retiré ce dossier. Donc vous voyez, à chaque fois, nous essayons de peser. Nous essayons de peser sur la loi de transition énergétique. La loi sur la biodiversité, c'est une bagarre sans nom. Pas que nous, mais les autres.
Mais vous allez retourner au gouvernement. Alors, voilà, la question elle est là.
Sur la loi sur la biodiversité, pour la faire inscrire dans l'agenda. J'avais réussi à convaincre Jean-Marc Ayrault de le faire à l'Assemblée. On a mis un an pour que ça revienne au Sénat. C'est une loi dont intuitivement les grands groupes productivistes se disent ils ont tort, parce que ça pourrait les servir énormément, mais bon, c'est encore la vieille pensée. Ils se disent, ça va nous enquiquiner avec des normes et la fiscalité. C'est pas vrai, mais bon, je vous fais pas le débat là. Et donc, c'est retardé. On va le mettre à l'agenda, le président de la République l'a mis à l'agenda.
Est-ce que vous pourriez revenir au gouvernement
après les régionales ?
Je souhaite que dans l'année qui vient,
oui.
Le président de la République continue son action d'infléchissement de la politique sur la question européenne, sur la question budgétaire. Parce que quand on a des marges de manœuvre, c'est quand même plus facile. Par exemple, là où ça ne va pas cette année, c'est qu'on a encore baissé le budget de l'écologie après l'avoir baissé déjà sous Mme Bateau qui est partie. Donc vous voyez, il n'y a pas de complaisance de ma part. Je dis, voilà, les termes de la discussion. Les termes de la discussion, c'est pousser sur la conférence climat, sur trouver des moyens pour la transition énergétique, que la loi sur la biodiversité arrive avec l'Agence française de la biodiversité.
Que soit fermer une
centrale nucléaire. Dit,
mais ça, ça sera mécanique avec la loi. Les 62.
Ça, vous êtes confiant là-dessus.
Oui.
Est-ce que vous ne pêchez pas un peu par naïveté?
Non, pour le coup, c'est très factuel. Comme on a plafonné la production d'électricité par voie nucléaire à 62 MW, de fait, dès qu'on va essayer d'augmenter, il va falloir refermer un réacteur. Tout le monde est à peu près d'accord.
Ça sera fait d'ici à 2017.
Le seul vrai débat, en réalité, que Ségolène Royal pousse, elle dit même deux réacteurs. Mm-hmm. Et elle dit pas forcément Fessenheim. Enfin, voilà.
Ça sera fait d'ici à 2017.
Oui.
Ah oui.
Et par ailleurs, je le dis,
d'ici à deux ans,
vu la cristallisation des combats, y compris sur le fond, et à Notre-Dame-des-Landes et au barrage de Sivens, c'est évidemment pas possible qu'il y ait un retour au gouvernement des écologistes avec Notre-Dame-des-Landes qui serait réalisé ou le barrage de Sivens qui serait réalisé. Oui. Vous voyez d'ailleurs, moi je salue encore le travail de Ségolène Royal sur ces deux dossiers, en particulier la mission d'expertise qu'elle a envoyée là-bas à Sivens et qui revient régulièrement pour faire ce que nous avons proposé au départ, c'est-à-dire trois petites retenues d'eau qui correspondent à la moitié de ce qui était prévu, 1,5 million de mètres cubes, ça sera 750 000. J'espère qu'on pourra trouver un équilibre à ce niveau-là. Et enfin, mais je sens que vous n'allez retenir que ça, évidemment, je considère que nous avons vu en deux ans, et ça, vous voyez, c'est pas très agréable vis-à-vis du président de la République, tous les méfaits de la Ve République. Voilà. Je pense que c'est fini, la Ve République, et qu'il y a un moyen de changer de régime, sans changer la Constitution, c'est de changer le mode de scrutin. Et c'est inacceptable que dans un pays comme le nôtre,
c'est une condition au
retour, des éléments
retour
proportionnels intégrales.
La discussion proportionnelle intégrale, circonscription.
C'est ce que vous avez dit au président de la République dans l'avion qui vous menait à Moscou.
Oui.
C'est ça.
Oui. Nous revenions de Moscou.
Vous reveniez de Moscou. Que,
mais au-delà, ce ne sont pas des exigences. Attention, si on n'a pas tout ça. Voilà. C'est le cadre de la discussion. Et moi, je souhaite qu'il y ait ce cadre-là pour réunir la gauche et les écologistes, et même au-delà, parce que celui auquel j'ai parlé de ce dossier de la circonscription régionale à la proportionnelle, c'est Jean-Christophe Lagarde, le nouveau patron de l'UDI. Les centristes ont toujours porté ça.
Vous savez ce que ça signifie, proportionnel intégral, au vu des sondages aujourd'hui?
Je crois que vous l'avez reçu.
Jean-Vincent Placé, vous savez ce que signifie aujourd'hui la proportionnelle intégrale au vu de la réalité politique? Ça veut dire que le Front National peut être le premier parti représenté à l'Assemblée.
Je pense qu'il est extrêmement important de faire le débat avec le Front National dans les institutions. Je ne me réjouis évidemment pas qu'ils aient des élus, qu'ils aient des maires. Je souhaite que nous fassions tout ce qui est possible pour qu'il n'y ait pas de président de région et de président de département. Donc c'est un peu contradictoire d'ailleurs avec mon propos
proportionnel. Oui, voilà. Plus que vous, quand
mais
même. Hein.
Il y a un moyen d'éviter, si j'ose dire, ses propres contradictions pour nous, c'est de faire un tour et qu'on vote et que celles et ceux qui veulent voter, hein, c'est pas un parti qui est interdit. Je ne vais pas en faire évidemment la publicité ni le panégyrique, ni en faire en être le turiféraire, mais il est pour moi plus sain démocratiquement de faire le débat à l'Assemblée nationale avec des parlementaires du Front National, alors plutôt que de le faire dans la rue ou par, excusez-moi, j'allais dire BFM interposé, mais BFM, ITL, LCI interposé.
Je vois pas le rapport, mais enfin, vous pouvez préciser peut-être.
Mais pour dire que c'est pas normal de faire le débat par les chaînes info. C'est normal et légitime qu'il y ait une discussion au sein des assemblées pour qu'on ait le débat démocratique. Et je vais même vous dire un propos que j'ai pu
tenir. Comme ça affaiblira un peu la loi de républicaine à l'Assemblée, ce qui fait pas mal à la gauche.
C'est pas du tout. Ça, je savais que vous alliez dire ça.
Ah bah non.
Mais je vais vous dire, aujourd'hui,
c'est drôle.
Madame Le Pen, elle se dit qu'elle est tellement haute qu'un jour, et peu avec le scrutin uninominal majoritaire, arriver au pouvoir. Et quand je dis ça, pour le coup, je suis comme avant, mais
c'est
en plus
pour vous
extrêmement sérieux. Dès qu'on arrive à un tiers, c'est possible.
C'est possible.
Ça a déjà été démontré ailleurs, donc je ne veux pas me lancer dans des parallélismes goudiniens, comme on dit, mais ça est déjà arrivé ailleurs. Et je pense que ce sera plus simple de faire la proportionnelle et le combat idéologique, plutôt qu'à un moment, dans une exaspération, dans un temps de crise, à un moment où le jour des législatives, il y a eu tel ou tel drame, hop, ça pousse tellement qu'on se retrouve dans des difficultés qui nous éloigneraient énormément République et de nos valeurs. Et vraiment, je suis très sérieux quand je dis ça.
Jean-Vincent Placé, une question qui concerne d'ailleurs le débat démocratique. Vous parliez des chaînes d'information tout à l'heure. La chaîne ITL a décidé de se séparer d'Éric Zemmour, qui est d'ailleurs aussi chroniqueur sur RTL et dans le Figaro, à la suite des polémiques qui ont été suscitées par son livre et par ses propos tenus ici ou là. Est-ce que c'est un bon choix ou au contraire, c'est une erreur?
Et est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression?
Moi, je pense que, et ce n'est pas ni à LCI, ni au Figaro, qu'on dira, ou même à RTL, que moi je trouve ça assez logique qu'il y ait des lignes éditoriales. Vous voyez,
hein, qu'on est dans un journal, il y a des actionnaires, nombre d'amis à gauche disent toujours « Ah oui, ce sont les forces de capital qui tiennent, oui, bon, voilà. » Je trouve ça normal qu'il y ait des lignes éditoriales. Après, je suis attaché évidemment à la liberté d'expression, donc mon premier réflexe, ce serait de me dire un peu d'ailleurs comme Danny Cohn-Bendit a dit, en substance, il est interdit d'interdire. Après, c'est comme pour Dieudonné, il faut éviter les phrases de trop dans une dérive qui entraîne vers l'extrême droite.
Phrase qu'il n'a pas dite, vous le savez.
Alors, il y a la polémique. Il y a la polémique sur effectivement le mot déporté, déportare en italien. Moi, je suis moins spécialiste que certains dans l'assemblée d'insistance de l'italien. Mais, bon.
Non, mais on est très loin. Il y a quelque chose qui.
Non, non,
mais
il y a quelque chose qu'il a dit et qui m'intéresse.
Les termes du débat, je dis la dignitoria du journal.
Il y a quelque chose qu'il a dit.
Par ailleurs, hein, ça,
il y a quelque chose qu'il a dit.
En termes d'image, ils ont dû raisonner. Et sur le fond, je suis partagé et je pense tout de même que, au fond, si après avoir tenu ces éléments, je trouve ça assez logique qu'Itélé ait pris cette décision.
Voilà. Quand Éric Zemmour, notamment sur RTL, évoque le spectre de la guerre civile, qu'est-ce que ça vous fait ?
Pour l'avoir fréquenté dans pas mal d'émissions ou avoir eu des discussions avec lui, je trouve qu'il est dans une dérive incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une telle dynamique du succès, disons-le, hein, du succès d'édition, du succès dans les médias, qu'on entretient un phénomène qui échappe aux émissions concernées, d'où la réaction d'Itélé, et je pense que ça lui échappe à lui-même. Maintenant, il est emporté par la propre caricature de son personnage, et au regard de sa
juste
culture
une petite remarque,
et son intelligence, je regrette qu'il ne devrait pas mettre cette intelligence au service de ceux qui, de fait, luttent contre...
Une petite remarque, vous disiez, entre camarades, on note que les médias sont tenus par le grand capital, bah, Itélé, c'est pas du petit capital non plus, hein, c'est Canal+, si
je sais,
c'est
du
grand
capital. Je sais.
Juste faire cette petite remarque.
Un mot, puisque vous disiez que vous étiez...
Le général de LCI dit cela.
Vous disiez que vous étiez attaché à la liberté d'expression, je voudrais juste vous entendre d'un mot sur cette invraisemblable affaire Sony, Hollywood, qui plie face à la Corée du Nord, à la suite d'une attaque de pirates informatiques qui était manifestement orchestrée par Pyongyang, la compagnie Sony a renoncé à distribuer son film qui ridiculisait le dictateur nord-coréen. Est-ce que c'est une capitulation ou est-ce que c'est une sage décision ?
Je trouve ça incroyable. Hein.
C'est hallucinant.
Ah oui. Hein, pour ceux qui, comme moi d'ailleurs, ne connaissent pas bien le sujet, je me suis fait expliquer par quelqu'un qui bosse sur les systèmes d'information. C'est tout à fait stupéfiant. C'est-à-dire qu'avec une trentaine de hackers de très haut niveau...
C'est une énorme prouesse technique.
Oui, ils ont réussi à balancer un mail virus qui a détruit l'ensemble des fichiers de la boîte Sony, enfin je crois sa filiale américaine.
On parle d'équivalent de 1000 milliards de pages.
Oui, et de pas loin de 1 milliard de dollars de pertes.
Est-ce que c'était la bonne décision
à ce moment-là. Après... je pense qu'il y a eu quand même un petit réflexe d'urgence. Donc, bien sûr qu'on peut pas dire que c'est la bonne décision. Le président Obama s'est saisi de la question.
C'est le seul, d'ailleurs. Hein. Oui. On n'a pas beaucoup entendu les hommes et les femmes politiques. Hein.
Oui, mais là, justement, on a un problème. Et là, j'étends le sujet pour arriver rapidement à ce qui peut être une réponse au moins partielle. C'est que nous, on s'est mis dans les mains de tout ce petit monde-là. Depuis l'histoire Snowden, personne n'a réagi. Donc, aussi bien Google, Amazon, Facebook, Apple, ce qu'ils s'appellent dans ce petit milieu-là, GAFA, le réseau GAFA, ils tiennent tous nos réseaux numériques.
Ils sont plus puissants que les États.
Ils savent tout. Et on arrive à un moment où, entre ceux qui ont toute la connaissance et tous ceux qui veulent la voler ou la détruire, on va arriver dans un monde de cyberdéfense et de cyberattaque complètement démentiel.
On n'aura pas le temps d'ouvrir le sujet.
Oui, mais il y a juste une petite réponse qu'on doit avoir, c'est qu'il faut que nous ayons un réseau européen. Et ça, j'en ai parlé avec Excel.
Il faut démanteler Google.
Il faut que nous.
Moi, il faut démanteler Google.
Je ne suis pas à dire. Il faut détruire les autres. Je dis que nous devons avoir un réseau européen. Quand certains ont écouté le téléphone portable de Madame Merkel, quand on voit que toutes les infos de nos ministères sont chez les Américains, c'est pas normal. Et j'ai l'impression que, comme d'ailleurs sur l'écologie, mais sur le numérique aussi, parce que ce sont des temps nouveaux, nous avons un temps de retard. Donc, il nous faut absolument que nous ayons, je crois trouver un autre terme que le Google européen, parce que c'est idiot de dire ça, mais enfin, au moins, c'est clair. Et il faut que nous ayons une structure qui ne peut pas être nationale. Et quelque part, ce qui avait été fait sur Dailymotion par M. Montebourg n'avait pas beaucoup de sens. Parce que justement, Dailymotion devait chercher des partenaires européens pour s'ouvrir, pour avoir à terme un système numérique européen. Mais je vais vous dire, c'est comme pour l'écologie, ce n'est pas un petit sujet.
C'est un très, très, très lourd sujet. On est quand même arrivé dans une situation démentielle où M. Kim Jong-un, à la limite, fait plus de mal avec ça qu'avec ses armes nucléaires.
Merci Jean-Vincent Placé. C'est un sujet dont on reparlera. La question des cyberattaques, la question aussi de la place de Google, Amazon et Apple dans notre vie quotidienne. On en reparlera au Grand Jury. Jean-Vincent Placé, merci d'avoir été l'invité du dernier Grand Jury de l'année 2014. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes.
Merci
on
à vous,
sera de
bonne
retour
fête.
Le dimanche 4 janvier 2015. Dans un instant sur RTL, c'est Ludovic van de Kerckhoff pour RTL en direct de l'équipe. Et puis on va se retrouver nous juste après sur LCI en direct pour le Grand Jury, le débrief. Et juste après sur RTL.fr et lefigaro.fr. Très bonne soirée.
Vous écoutez RTL.